Les deux orphelines, sixième partie, chapitre 7. Rabusson ne tarda pas à se rendre compte de ce qui se passait à si peu de distance de la grotte. Les garçons de la Montagne Verte et le détachement français, sous le commandement du chevalier de Vaudrey, avaient manœuvré en vue de devancer les Indiens en fuite par une marche de flanc exécutée avec une rapidité prodigieuse. Et c'étaient ces hommes intrépides et audacieux qui venaient de surprendre la troupe de Sioux pendant que ceux-ci manifestaient leur surprise, leur douleur et leur terreur causées par la mort de leur chef. En un clin d'œil, les abords de la forêt avaient été occupés, et les montagnards, en tirailleurs habiles qu'ils étaient, tiraient les Indiens comme des chasseurs tombés en plein vol d'oiseaux de passage, épuisés par le long voyage accompli. Les Sioux tombaient à chaque coup de feu. Leurs cadavres jonchaient les sentiers de la forêt, par lesquels, affolés, chacun d'eux cherchait à s'enfuir. La fusillade continuait se rapprochant de la grotte. Bientôt, les premiers montagnards parurent sur les rochers, qui s'amoncelait, comme on sait, tout le long du torrent. Marianne, revenue d'un premier mouvement de terreur, s'était avancée jusqu'à l'entrée de la grotte. « Qu'est-ce donc ? » demanda-t-elle, s'adressant au trappeur. « Les Indiens ? » fit-elle en tremblant. « Ce sont des amis !» répondit Rabusson d'une voix éclatante. Et se redressant de toute sa hauteur sur le rocher, il cria « Hourra pour les boys ! Hourra pour les Français !» Une acclamation répondit à cette voix bien connue des montagnards, et quelques-uns d'entre les boys, escaladant les rochers, arrivèrent auprès du trappeur. « Où est le chef français ? » s'informa aussitôt Rabusson. « Il marche avec nous, » lui fit-il répondu. « C'est lui qui commande. » À ce moment, le chevalier de Vaudrey parut accompagné de Gaspard. « Venez par ici, mon officier, » dit le sergent. Bientôt après, il introduisait ses deux compatriotes dans la grotte. À la vue de Marianne, le chevalier poussa une exclamation de surprise, et s'avançant au-devant de la jeune femme, « Vous ici ? » dit-il. « Vous ?» Rabusson était stupéfait. « Vous connaissez Henriette Gérard ? » demanda-t-il, s'adressant à Roger. « Henriette Gérard ?» Ce fut Marianne qui jugea à propos de répondre, se tournant vers le trappeur. « Je ne suis pas Henriette Gérard, » prononça-t-elle d'une voix émue. Rien ne saurait donner une idée de la stupéfaction que ces mots produisirent sur Rabusson. Pendant la première minute qui suivit, ses yeux écarquillés allèrent alternativement du visage du chevalier à celui de Marianne. Puis d'une voix énergique, « Que m'importe du reste » s'écria-t-il, « que ce soit d'un nom ou d'un autre qu'il faudra vous appeler maintenant. C'est la femme que j'aime, et qu'elle s'appelle Henriette Gérard ou autrement, c'est elle que je veux garder auprès de moi. » Pendant que l'ancien sergent s'abandonnait ainsi à son exaltation, le chevalier s'était rapproché de Marianne. Celle-ci lui raconta brièvement ce qui lui était arrivé. Ce fut alors le tour de Roger de prendre la défense de celle qui s'était sacrifiée autrefois pour Henriette Gérard. « Je prends Madame Douvel sous ma protection, » dit-il s'adressant à Rabusson. « Cette dame, qui mérite tous nos égards et a droit à tous nos respects, suivra le corps dont j'ai le commandement. » Et comme Rabusson faisait mine de vouloir prendre la parole pour répliquer à cette phrase qui le désespérait, le chevalier de Vaudrey s'empressa d'ajouter, en regardant fixement le trappeur, entre les deux yeux. Les hauts faits que vous avez accomplis, le courage et l'expérience que vous avez déployés, me font un devoir de vous accorder la récompense à laquelle ont droit ceux qui se distinguent sur les champs de bataille. Sergent Rabusson, prononça-t-il en élevant la voix, afin d'être entendu par ceux des Français et des montagnards, qui étaient à présent tous arrivés à l'entrée de la grotte. En ma qualité de commandant du corps dont vous faites partie, je crois répondre ici au sentiment de tous ceux qui ont été témoins de votre valeur contre l'ennemi, en vous nommant lieutenant. » Et sans attendre que le malheureux homme fût revenu de sa surprise, le chevalier de Vaudrey continua. « Lieutenant Rabusson, vous prendrez le commandement des éclaireurs qui vont immédiatement se lancer dans la plaine. » Marianne intervint. « Et mon mari ? » fit-elle en regardant le chevalier d'un air suppliant. Le lieutenant Douvel est, m'avez-vous dit, prisonnier des Sioux. Il est donc vraisemblable qu'en poursuivant ceux que nos hommes viennent de mettre en déroute, on atteindra les Indiens qui retiennent captif le lieutenant Douvel. « Je m'en charge !» s'écria Rabusson en brandissant sa carabine. Puis se tournant vers le chevalier, « Je vais me mettre à la tête de mes éclaireurs, mon officier » dit-il, et s'élançant hors de la grotte, il disparut. Grâce à la vigilance du chef des montagnards, à l'ardeur des Français, à l'impatience du chevalier de Vaudrey, les événements allaient se précipiter. Les rapports des coureurs indiquèrent la direction à prendre pour rencontrer l'armée anglaise. Celle-ci, divisée en deux corps, manœuvrait de façon à se placer entre l'armée de Washington et celle commandée par Lafayette. Pour réussir dans l'exécution de ce plan, il fallait que les Anglais puissent occuper la savane et y attendre, campés à l'abri des feux des deux corps d'armée américains, jusqu'au moment de donner, afin d'écraser l'un avant l'arrivée de l'autre. Déjà, une partie de ce plan avait reçu un commencement d'exécution, en ce sens que les premières brigades anglaises avaient pu prendre sans coup férir position en avant de la prairie. Les autres brigades n'avaient plus qu'à opérer leur jonction pour se trouver prêtes au moment où l'avant-garde américaine arriverait à portée de canon. Les Sioux avaient tenu l'état-major anglais au courant de la marche de l'ennemi, et le général put ainsi annoncer à ses officiers qu'une première bataille pourrait se livrer dès le lendemain à la pointe du jour. C'était précisément pendant cette soirée qui devait précéder la bataille pour laquelle les Anglais avaient pu prendre d'avance toutes leurs mesures et choisir toutes leurs positions que le chevalier de Vaudrey acceptait le commandement des garçons de la Montagne Verte. Roger ne s'attarda pas dans la grotte. Après avoir donné des ordres pour que Marianne pût suivre le corps d'armée à cheval, il donna le signal du départ. Jamais les montagnards n'avaient marché avec autant d'entrain. Chacun comprenait l'importance du mouvement qui s'opérait. Il y allait, avait dit le chef, non seulement du succès de l'armée américaine, mais peut-être bien de son salut. À tout prix, il fallait donc arriver à temps pour la diversion jugée indispensable par Washington. Lorsque tout le petit corps de troupes se fut engagé dans la prairie immense, le chevalier de Vaudrey, s'approchant du chef des Boys, lui demanda s'il pouvait juger du temps que l'on mettrait pour accomplir le trajet. « En toute autre circonstance, répondit le montagnard, je vous répondrai qu'en marchant toute la nuit, nous pourrions être sur le champ de bataille à l'aube. » Mais, s'empressa-t-il d'ajouter, il faut, et il appuya sur le mot, que nous puissions entrer en ligne cette nuit même. Ce sera-t-il possible? Je me porte garant de mes montagnards. En ce cas, vous pouvez compter que mes hommes aussi seront à la hauteur de la tâche qui leur incombe. Se séparant alors, les deux chefs allèrent chacun de son côté veiller à ce que leurs troupes accélérassent encore le pas. Cette marche de nuit, au milieu des hautes herbes, se poursuivait déjà depuis plusieurs heures, quand tout à coup, un des éclaireurs, lancé en avant, se trouva face à face avec un homme embusqué. « Qui vive ? » cria le montagnard. « Vermont ! » répondit l'homme en se redressant. « Le trappeur ? » fit le boy. « Lui-même ! Et que guettes-tu par ici ?» Sans répondre, Rabusson, car c'était lui, montra à une certaine distance un point où l'herbe ondulait, ce qui s'apercevait à la clarté dont la lune inondait la prairie. « Les Sioux ? » demanda l'éclaireur. « Oui, il faut prévenir le commandant. Inutile, contente-toi de réunir deux de tes compagnons et suis-moi afin de me prêter main forte au premier appel. » Quand le montagnard, pour obéir, eut disparu, Rabusson se mit à ramper, ne se redressant par moments que pour s'assurer qu'il était toujours dans la direction voulue. Bientôt, il se trouva assez près du campement des Indiens pour voir à quelle occupation se livraient les Sioux. Quelques-uns d'entre eux entouraient un homme que Rabusson reconnut tout de suite pour être le lieutenant Douvel. Décidément, le hasard le favorisait. Il était donc en présence de son ennemi. Les Sioux, au nombre d'une dizaine seulement, ne se doutaient guère vraisemblablement de la marche des Boys, car ils ne prenaient même pas soin de se garder contre une surprise. Rabusson put s'approcher de façon à reconnaître parfaitement les traits de l'ancien commandant du Brick, le Glorieux. La tentation lui prit de coucher cet homme en joue et de lui envoyer une balle au cœur. Mais alors une idée moins sauvage lui vint presque aussitôt. Ce n'était pas un crime qu'il voulait commettre, c'était un duel qu'il voulait avoir avec le rival qu'on lui avait préféré. « Je le sauverai d'abord, » pensa Rabusson, « et après, ce sera l'un de nous qui disparaîtra de ce monde. » Au même instant, prompt à s'élancer, le trappeur bondit au milieu des Indiens. Cette fois, il joua du couteau avec une telle adresse et une vigueur telle que les Sioux, surpris, tombaient les uns après les autres. Douvel, dégagé, se mit de la partie. Et tandis qu'il s'attaquait à ses gardiens, Rabusson, se servant de sa carabine comme d'une massue, assommait les survivants de ce combat qui n'avait duré que quelques minutes. « Vous m'avez sauvé !» s'écria Douvel en tendant la main à celui du courage et de l'audace duquel il avait pu juger. Rabusson repoussa la main du lieutenant. « Venez, » dit-il d'un ton sec et bref. Médouvel reprit. « Libre à vous, monsieur, de refuser mes remerciements. Mais je les dois à celui qui m'a sauvé, comme je dois mon admiration, au courage, à l'énergie dont je viens d'être témoin. Et c'est à ce courage que je fais appel. Il y a une autre personne à sauver. « Votre femme, n'est-ce pas ?» interrompit Rabusson. « Comment ? Vous savez ?» Le trappeur approcha son visage de celui du lieutenant. « Vous ne me reconnaissez donc pas ? » dit-il. Douvel regarda fixement son interlocuteur. Celui-ci reprit avec un ricanement. « Rabusson, le sergent Rabusson du pénitencier !» Et d'une voix sourde. « Je vous ai bien reconnu tout de suite, moi, lieutenant Douvel. » Le mari de Marianne ignorait l'ardent amour qui, depuis des mois, torturait l'âme du malheureux sergent. L'attitude et les paroles de Rabusson fut pour lui toute une révélation, et un regard de commisération alla chercher le visage convulsé du trappeur. Mais celui-ci n'était plus maître de lui. Chez cet homme énergique où se rencontraient tant de qualités et de sentiments qu'une plus grande éducation eût développé, la colère aveuglante prenait des proportions formidables. La rage au cœur, il fit un pas pour se rapprocher encore de son interlocuteur. Et d'une voix vibrante, « Lieutenant Douvel, » s'écria-t-il, « l'un de nous deux est de trop en ce monde. Vous m'avez compris, n'est-ce pas ? Il n'y a pas besoin d'explication. Il n'est pas non plus nécessaire que nous allions chercher des témoins. Ce n'est pas la peine de mettre qui que ce soit dans le secret qui doit mourir avec l'un de nous deux. Quoi ? Un duel ? C'est un duel que vous me proposez ? » répliqua Douvel en élevant la voix. « Mais cette rencontre entre nous est impossible. Celui qui m'a sauvé ne saurait devenir l'instant d'après mon adversaire acharné. » Rabusson avait écouté en donnant des signes d'impatience. Quand le lieutenant eut cessé de parler, « J'aurais pu vous tuer tout à l'heure, » fit-il les dents serrées, « mais vous auriez ignoré, en mourant, que c'était moi qui me vengeais. Et je voulais que vous sachiez, avant de rendre l'âme, que j'avais sauvé votre femme, qu'elle est en mon pouvoir. Je voulais vous dire tout ce que j'avais souffert de votre bonheur, et cela au moment où l'agonie s'emparerait de vous, au moment où vous vous sentiriez mourir. « Allons, » ajouta-t-il, « vous allez vous mettre en garde en face de moi, et vous verrez, lieutenant Douvel, comment Rabusson sait se comporter devant un adversaire. » Et courant à un des éclaireurs qu'il venait de voir à quelques pas de lui, il demanda son sabre. Puis revenant à Douvel, « Voici une arme. » En même temps, il tirait de sa gaine le long couteau de chasse. « En garde, lieutenant Douvel, » cria-t-il. Et comme pour obliger son adversaire à se défendre, il fondit sur lui. Le lieutenant instinctivement para le coup. Mais à ce moment, les éclaireurs parurent. Avant qu'ils eussent eu le temps de s'informer du motif de cette querelle, le chevalier de Vaudray arriva à son tour. D'un geste plein d'autorité, il fit signe à Rabusson de l'écouter. Et d'une voix forte, il prononça ces mots. Quand le drapeau de France est déployé devant l'ennemi, le sang français ne doit couler que pour la défense de cet étendard. Puis regardant alternativement les deux adversaires, « Je connais le motif de cette querelle. La fatalité y a joué le principal rôle. » Se tournant vers le lieutenant, « Monsieur Douvel peut aller rejoindre son épouse. Le lieutenant Gaspard que voici va l'accompagner. Mais je dois dire à Monsieur Douvel que nous comptons sur lui pour prendre le commandement de notre petite brigade de montagnards. Qu'il revienne donc le plus tôt possible. » Le lieutenant partit accompagné de Gaspard. Alors, Roger, s'adressant au trappeur qui, le front incliné, paraissait anéanti, « Lieutenant Rabusson, dit-il, vous nous avez déjà prouvé que vous êtes un soldat énergique et un intrépide combattant. Prouvez-nous maintenant que vous êtes aussi un grand cœur. Vous avez encore une victoire à remporter, et celle-là, c'est sur vous-même que vous devez la remporter. » Puis, élevant la voix pour être entendu des Françaises et des montagnards qui, successivement, arrivaient de toutes parts, il brandit son sabre en criant « En avant, messieurs, pour la gloire de la France et l'indépendance de l'Amérique !» Rabusson mit la carabine à la main, et tandis que le chevalier entraînait ses hommes, il essuya ses yeux humides. Puis, comme s'il eût pris une résolution subite, « Malheur aux habits rouges ! » s'écria-t-il.